Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Une journée spéciale sur l'antenne de France Culture, 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King, le retour de la question noire avec un Donald Trump à la Maison Blanche, un président proche des courants nationalistes. Les États-Unis se débattent toujours avec leur inégalité raciale contre la pauvreté, des taux d'incarcération et des problèmes de violence policière. Le mouvement des droits civiques ouvre son deuxième acte à travers le slogan Black Lives Matter. Nous sommes en compagnie de Christiane Taubira. Votre regard, Christiane Taubira, sur cette Amérique où finalement les choses n'ont pas autant changé qu'on aurait aimé qu'elles changent en 50 ans.
Alors, l'Amérique, effectivement, est toujours travaillée par ces vieux démons et certains ont cru que l'ère Obama aurait ouvert une possibilité. Obama lui-même parlait d'une Amérique post-raciale. Lorsqu'il a quitté le pouvoir, il a d'ailleurs dit qu'il s'était trompé sur ce point et qu'il avait espéré, mais qu'il était obligé de constater parce que dans sa dernière année, d'ailleurs, de mandat, il y a eu toute une série, les deux dernières années, il y a eu toute une série d'assassinats. Il y en avait eu d'ailleurs depuis 2007. Avec Trayvon Martin, ou 2008, mais donc toute une série d'assassinats qui ont rappelé en fait cette douloureuse situation. Donc il y a ça. Alors, ça n'est pas manichéen, ça n'est pas binaire. Il y a eu d'incontestables progrès, il y a la reconnaissance. Il n'y a personne, en tout cas, pour venir argumenter, à part les Steve Bannon, à part le Ku Klux Klan, à part les néo-nazis, ils s'appellent eux-mêmes comme ça. Il n'y a plus personne pour venir argumenter, pour expliquer que les Afro-Américains doivent être au bas de l'échelle. Donc, de ce point de vue, en termes de mentalité, il y a eu de vraies conquêtes qui ont été arrachés de hautes luttes, qui ont été payés extrêmement cher, parce qu'elles ont été payées par la vie de centaines de milliers de personnes. Donc ça, c'est une réalité. Mais c'est vrai que l'Amérique post-raciale, ça n'est pas pour tout de suite, avec en plus à la Maison-Blanche, comme vous le rappeliez, un président qui, lui, est sans aucun complexe raciste, sexiste, xénophobe. Il affiche, il s'en vante, il en fait une espèce d'argument de virilité même. Voilà, il secoue dans la société des forces extrêmement rétrogrades, extrêmement réactionnaires, qui ne sont sans aucune tolérance et sans aucune capacité à penser la socialité, c'est-à-dire la capacité pour tous, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, etc., à vivre ensemble dans cette Amérique qui se prétend le champion de la démocratie.
Comment vous expliquez le passage de Barack Obama à Donald Trump, Christiane Taubira ?
Alors, il y a des personnes beaucoup plus capables que moi qui ont proposer des analyses tout à fait intéressantes et pertinentes, et qui disent que c'est une espèce de backlash, c'est-à-dire que il y a toute une partie de la société française, de la société américaine, qui justement est aux prises avec la pauvreté, avec le chômage, avec toute une série de difficultés économiques, sociales, et donc qui du coup se sent vulnérable, fragilisé dans ce qu'elle portait comme patrimoine d'une espèce de suprématie raciale, et toute cette partie de la société américaine a vécu avec une très grande difficulté l'ère Obama, d'autant que Obama est incontestablement, quoi qu'on pense de son action, sans perdre de vue les blocages systématiques qui sont venus du Congrès. De sorte que Obama, il a vraiment gouverné par décret, il a vraiment gouverné par pouvoir exécutif, compte tenu des blocages législatifs. Mais Obama reste une personne d'une très grande dignité, il reste un esprit extrêmement sophistiqué, spirituel, un esprit extrêmement ouvert, cultivé, érudit. Il n'y a pas eu de scandale pendant ces 8 ans de présidence. La première dame est une personne absolument éblouissante. Donc, c'est un couple qui n'a pas donné prise à des choses putrides, à des choses même simplement contestables. Donc, même si on peut contester les positions politiques, la politique c'est fait pour ça. Pour justement concevoir les désaccords.
Justement, toute proportion gardée, lorsqu'on voit à la fois Obama et la situation actuelle des Noirs, on peut songer par exemple au poids qu'a eu Léon Blum dans la France de l'avant-guerre, on pouvait se dire que l'arrivée d'un juif au sommet de l'État était le signe que l'antisémitisme était inexistant. Et puis, quelques années après, on sait ce qui est advenu. Est-ce que c'est aujourd'hui la même chose? Vous qui êtes une femme politique, Christiane Taubira, une femme noire en politique, est-ce que vous voyez un parallélisme? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse aussi?
Alors, je suis une femme politique et je passe pas mon temps à me penser comme femme noire, même s'il y a des personnes dont l'activité principale consiste à renvoyer aux personnes leur apparence. Mais bon, voilà, je n'ai aucun problème d'identité. Je suis à l'aise avec ça depuis très, très, très longtemps. Depuis que je suis adolescente, je suis totalement à l'aise avec ces questions-là. Lorsqu'elles ressurgissent, elles provoquent chez moi beaucoup plus de l'ironie qu'autre chose. Mais voilà, en tout cas, je n'ai pas le droit, étant en vue, étant sur la scène, étant repérable, je n'ai pas le droit de permettre qu'une identité noire soit une case dans laquelle on enferme qui que ce soit. Alors, pour en revenir à ce que vous disiez sur Léon Blum, c'est exact pour Léon Blum et pour Obama. C'est-à-dire que vous avez un effet dynamique chez des tas de personnes qui se disent, eh ben voilà, moi j'avais encore quelques préjugés, mais je me rends compte qu'ils ne sont pas fondés. La couleur n'a rien à y voir. Il y a là une personne d'une grande intelligence, que ce soit Léon Blum ou Barack Obama, d'une grande intelligence, d'une grande culture, d'une grande capacité, avec une grande volonté d'agir, avec des idéaux qui sont identifiables et qui sont absolument admirables, même si on n'a pas envie de les admirer, même si on veut pas les choisir. Mais en tout cas, ce sont des idéaux qui sont des idéaux en tant que tel, pas des choix de carrière, pas des volontés d'enrichissement, pas des pratiques claniques, etc. Donc il y a des tas de personnes sur qui ça a cet effet-là. Et puis il y a des personnes qui se disent, mais où sommes-nous? Mais c'est fini, on est envahi. Voilà, donc les antisémites indécrottables disent Léon Blum, enfin bon, il y a Léon Blum, mais il y a eu... toute une série, bon, on pense à tout ce qui s'est passé à l'époque, enfin, du Front Populaire, mais aussi après, hein, dans le gouvernement qui va entrer en guerre, donc des personnes comme Jean Zé, comme Salon Gros, etc. Donc, il y a des campagnes extrêmement féroces qui sont livrées. Et Barack Obama, pendant 8 ans, il a reçu aussi des menaces de mort. Il y a des personnes qui ont continué à arroser leur propre haine. Donc, il y a à la fois cet effet bénéfique ou des gens qui étaient juste perdus un peu dans des préjugés, se rendent compte de l'inanité de ces préjugés-là, et puis d'autres qui, au contraire, choisissent de s'enfoncer dans les préjugés, nourrissent de la haine, et donc sont dans une espèce de fureur qui donne Donald Trump après Barack Obama. Et
on va entendre Martin Luther King. J'ai envie de vous le faire entendre, Christiane Taubira, et de faire entendre aux auditeurs un extrait de ce discours qui est probablement l'un des plus beaux discours qu'on puisse entendre. I have a dream, vous réagirez tout de suite après, Christiane Taubira.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
On n'a pas osé le traduire, Christiane Taubira, ce discours, cet extrait de discours de Martin Luther King.
Il faut laisser la pierre brute.
Une réaction à ce discours.
Alors, moi, c'est un discours que je connais depuis que je suis adolescente. J'ai dû l'écouter ou le regarder, parce que maintenant, on peut même regarder. J'ai à chaque fois la gorge serrée, à chaque fois. J'ai à chaque fois, si je suis seule à le regarder, c'est-à-dire face à ma propre émotion, j'ai les larmes aux yeux. si nous sommes en groupe, évidemment, l'émotion se dilue toujours lorsqu'on est en groupe. Mais voilà, c'est un discours. Alors, ce qui est intéressant de savoir, donc c'était sur le Mall, hein, et c'était
à
la
Washington.
Marche de 1963. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Martin Luther King avait commencé un discours plus froid, plus rigoureux. D'abord, c'est un pasteur. Bon, donc il a l'habitude des discours. C'est presque son métier. Les discours, ça ne veut pas dire que le contenu des discours n'est pas sincère, n'est pas profond, mais c'est son quotidien de faire des discours. Et il avait commencé un discours très, très, très carré, enfin cartésien et machin, et c'est Malia Jackson qui lui souffle, voilà, parle aux gens de ce rêve, parce qu'il y a des milliers de gens sur le Mall, qui l'écoute. C'est une journée, c'est Jobs and Freedom, Freedom and Jobs. Et il y a donc, voilà, il y a beaucoup d'Africains-Américains, mais il y a beaucoup de Blancs-Américains aussi. Et Malia lui souffle, mais parle-leur de ce rêve. Et donc, il lâche son discours et il s'en va comme ça. Et il nous offre ce discours mémorable, I Have a Dream, qui est absolument inoubliable et qui reste poignant tant d'années après, qui probablement a été déterminant d'ailleurs dans l'attribution du prix Nobel de la paix, même si ses combats suffisaient pour le prix Nobel de la paix.
Le fait justement de choisir une forme de lutte non violente de la part de Martin Luther King, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Christiane Taubira?
Alors, lorsque j'étais adolescente, lorsque j'étais au lycée, je n'aimais pas Martin Luther. C'est pas que je ne l'aimais pas, c'est qu'il n'était pas pour moi une figure mobilisatrice. Mm-hmm. Je préférais de loin le discours plus radical et plus clair de Malcolm X. Mm-hmm. Je préférais beaucoup les Black Panthers, avec non seulement leur discours politique, non seulement leur solidité, mais toute leur politique sociale, leur politique d'accompagnement, de lien dans les communautés africaines, américaines. Et puis l'intérêt, c'est qu'ils sont nés dans le Nord, enfin au Auckland, alors que bon, la figure repoussante et de cristallisation et de crispation contre le racisme, c'est le Sud, évidemment, l'Alabama, Montgomery, etc., Selma. Donc voilà, Martin Luther King, voilà, j'avais de l'affection pour lui, mais ça n'était pas une figure mobilisatrice. Lorsque j'ai commencé des études, donc ici à Paris, que j'ai commencé à lire, à traîner dans les bibliothèques et dans les librairies, je suis tombée notamment sur un livre qui était édité et publié par Maspero et qui était un recueil d'interviews de Malcolm X, de James Baldwin et de Martin Luther King. Et là, je découvre un autre personnage. Même si je ne suis pas, je suis toujours dans cette difficulté avec aimer son oppresseur. Mais bon, d'abord, Martin Luther King l'explique plus précisément. D'ailleurs, il a recours à un vocabulaire grec en disant, mais regardez, les Grecs, ils ont trois mots pour l'amour. Il y a Eros, il y a Philéo et il y a Agapé. Et que voilà, ce sont des contenus et des expressions d'amour différentes. Voilà, je n'adhère pas, mais je comprends davantage. Et il est intéressant de resituer Martin Luther King dans son époque, avec ses contemporains. Ses contemporains, c'est Malcolm X, justement. Ses contemporains, c'est James Baldwin. Ses contemporains, c'est Frantz Fanon.
Alors,
ses contemporains, c'est Mohamed Ali.
Différence, justement, faites-vous à cette époque et aujourd'hui, et pour les auditeurs qui ne connaissent pas ces personnages?
Entre ces personnages, alors Christiane, ce qui est intéressant Taubira, justement, c'est qu'on a l'habitude de les différencier. Malcolm X, c'est le radical, le violent, le raciste, etc. Mmh. Alors que dans les dernières années de sa vie, après quelques voyages, il a une autre vision et il est dans une radicalité qui est la radicalité de l'exigence, mais non pas la radicalité de l'affrontement et de la séparation. James Baldwin est un auteur, un poète, un intellectuel absolument incontestable, brillantissime, qui se retrouve un petit peu à mi-chemin entre Malcolm X et Martin Luther King, parce que lui, c'est l'intellectuel, il cherche à comprendre, il comprend les ressorts de chacun et il explique, même s'il n'adhère pas totalement. Et puis, il y a Martin Luther King, dont on dit que c'est un pasteur et il prêche l'amour de ses oppresseurs. Sauf que Martin Luther King, c'est quelqu'un qui a été sur le terrain, qui a été dans ce qu'il a expliqué. Il a théorisé et conceptualisé la non-violence. Bon, voilà, il a repris de Gandhi, bien sûr, mais il a conceptualisé en expliquant qu'en fait, il ne s'agit pas de non-résistance, il s'agit de résistance non-violente, c'est-à-dire qu'il s'agit d'agir, il s'agit de faire des sittings, il s'agit de faire ce qu'il appelait, c'est pas le travel, but voilà, il y avait des espèces de voyages de lutte, donc des sittings dans des lieux publics. imposer une présence non violente, s'attendre à la violence. Et la violence, elle est terrible. Ce sont des chiens, ce sont des aiguillons électriques, c'est une brutalité qui d'ailleurs va bousculer, y compris toute l'Amérique et le monde entier. Donc, mais il y a quelque chose d'absolument intéressant, et c'est, je me souviens que c'est un texte d'Albert Memmi qui me permet de découvrir ça lorsque je suis étudiante, c'est qu'il dit que c'est la même figure du révolté. C'est la même figure du. En tout cas, ce sont trois figures du même révolté, plutôt. Ce sont trois figures du même révolté.
Memmi, qui, là aussi, pour le situer, réfléchissait beaucoup sur le portrait la colonisation. Voilà,
portrait
et,
du colonisé,
le
portrait du colonisateur. Et donc, Memmi explique à juste titre, et j'en reviens à Fanon. Comme contemporain de Martin Luther King. Donc, Memmi dit que c'est la figure du révolté. Ce sont trois figures du révolté, parce que le révolté, il commence par effectivement l'amour de son colonisateur. Il n'a pas de haine pour le colonisateur. Il essaie de parler au colonisateur. Il pense le dialogue possible. Donc il fait des efforts. Il s'habille correctement. Il adopte la langue du colonisateur. Il essaie de créer les conditions de dialogue. Donc ça, ce serait plutôt effectivement Martin Luther King. Et puis il l'interpelle sur des choses difficiles que manifestement le l'oppresseur ne veut pas voir. Ça, ce sera un peu Baldwin, l'intellectuel qui explique les choses rigoureusement, avec obstination, etc. Et puis, il constate que le révolté constate que l'oppresseur ne veut rien entendre parce qu'il est installé confortablement dans son système de domination et l'opprimé, le colonisé, se dit « il n'y a rien à faire, je n'aurai rien si je ne l'arrache ». Et c'est donc la phase de la violence, de l'affrontement immédiat, brutal, sans concession, et ce serait la figure de Malcolm X. Donc moi je pense que cette analyse est parfaitement judicieuse, parce qu'elle permet un continuum, non pas forcément dans le temps, parce qu'ils sont justement contemporains, non pas forcément dans le temps, mais un continuum dans la compréhension de la dialectique du rapport de libération face au colonisateur ou à l'oppresseur.
Ça, c'est pour la situation aux États-Unis. Pour la situation en France, Christiane Taubira, comment jugez-vous de l'évolution du racisme anti-noir ? Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période où on a donc eu la question des colonies ? Vous parliez de Memmi, où aujourd'hui on a également des bavures qui touchent des Noirs, je pense, à l'affaire Théo et à Adama Traoré. Votre point de vue à cet égard ?
Oui, on pourrait parler de Lamine Gay, etc. Il y a une différence fondamentale, c'est que aux États-Unis, l'esclavage a lieu sur place, la traite négrière, l'esclavage ont lieu sur place. Pour la France, c'est dans les colonies. Donc la France, de la même façon que les États-Unis se sont raconté une histoire d'Européens qui échappent à l'oppression en Europe et qui viennent, terre de liberté, et qui, par la force de leur travail, vont domestiquer le territoire, vont le faire fructifier, etc. Donc les Américains se racontent cette histoire-là. Ils évacuent complètement la violence qu'ils ont infligée aux Amérindiens, ils évacuent la traite négrière, l'esclavage et la violence donc infligée aux Africains, aux Africains-Américains. Ils évacuent tout ça et ils se racontent une histoire de démocratie modèle, exemplaire, « We the people for more perfect union ». En France, la France raconte une autre histoire, elle. Elle se raconte une autre histoire, c'est qu'elle a la terre de la liberté, que dès qu'on foule le sol français, ce qui légalement était vrai, dès qu'on foule le sol français, on est libre, c'est la terre de l'émancipation, c'est la terre de la générosité, etc. Elle se raconte cette histoire-là. Sauf qu'elle a été une puissance impériale, qu'elle a eu des colonies, qu'elle a participé à la traite négrière, à l'esclavage, qu'elle a participé aussi à la deuxième période de conquête coloniale, donc à la colonisation, avec l'occupation de territoires, avec le travail forcé, avec l'indigénat, avec toutes ces histoires qui étaient racontées par ceux qui colonisaient eux-mêmes. Les discours de Loti, tous ces gens qui disaient on les passe au fil de l'épée, la conquête de Toanan, c'était des choses qui étaient racontées dans les journaux. Donc c'était totalement une réalité. Et forcément, ça a eu des effets. Et dans la législation française, ça a laissé des traces. Dans la législation française, la question de citoyenneté, d'appartenance raciale, entre parce qu'il faut traiter notamment la situation des métis en Indochine. Donc il y a des débats sur la législation, il y a des débats sur le statut, il y a des débats sur l'identité, il y a des débats sur la citoyenneté, et donc il y a des catégories. Il y a les Français musulmans et puis il y a les Français tout court. Donc il y a forcément ce boomerang, ce retour sur le sol national de toute une série de problématiques qui sont qui ont lieu dans les terres colonisées et qui prennent à la gorge la République française. Donc la France vit ça aujourd'hui. Et lorsque vous avez des intellectuels, des universitaires qui travaillent sur la post-colonie, sur les traces justement de l'Empire sur le sol français, ce sont des enjeux majeurs. Comment la France arrive à se penser aujourd'hui comme société plurielle, plurielle du fait de son histoire et notamment de son histoire coloniale. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire entrer dans le débat public de façon à ce qu'on échappe effectivement à ces préjugés qui peuvent être meurtriers pour certaines personnes. Et puis... qui peuvent être extrêmement brutaux et violents dans les relations, notamment entre police et citoyens dans certaines parties du territoire.
Et quand vous voyez Christiane Taubira, ce qui s'est déroulé à Mayotte, la grève et le traitement des DOM, s'agit-il aussi, selon vous, d'une question raciale ou en tout cas d'un territoire qui est observé comme étant un territoire de seconde zone, parce que précisément, il y a aussi de la question raciale dans la manière dont on traite la question de Mayotte.
Alors, d'abord, moi, je fais attention au vocabulaire. J'évite d'utiliser racial. Il y a un livre de très, très grande qualité qui est fait par deux femmes, Barbara et... Fields et sa sœur, et elles expliquent, ça s'appelle Racecraft, et elles expliquent comment, bon voilà, que la race est un concept, mais le racisme est une réalité. Et que malheureusement, on nourrit le racisme d'une certaine façon en utilisant l'adjectif racial et en couvrant de la notion de racial des choses qui sont sociales. Donc, et Martin Luther King, il est juste de rappeler qu'il ne s'est pas battu seulement pour la reconnaissance des Africains-Américains. Martin Luther King a mené des luttes sociales. Martin Luther King a mené des luttes anticoloniales. Lorsqu'il s'est opposé à la guerre au Vietnam, c'est une lutte anticoloniale. Lorsqu'il dit qu'il faut lutter contre la pauvreté, il faut permettre la cohésion sociale, il faut permettre la formation, l'accès à l'éducation, etc. Voilà, ce sont des luttes sociales. Donc, voilà, je pense que c'est toujours un piège de qualifier les choses et éventuellement de risquer de les enfermer dans des rapports raciaux. Voilà, dans race, d'abord, je n'utilise pas race, et dans racial, dans certaines circonstances, je mets des guillemets. Donc, à Mayotte, il y a un problème géopolitique d'abord. Il y a un problème géopolitique avec une île qui appartient à un archipel, géographiquement parlant, et qui a fait le choix en 1975 d'une consultation populaire, a fait le choix d'être française. Mais il y a la réalité géographique et la réalité géopolitique, et on ne peut pas les évacuer. On n'a jamais définitivement raison contre la géographie. Il faut que les hommes et les femmes politiques comprennent cela. On n'a jamais définitivement raison contre la géographie. On peut la tordre, on peut la contourner, d'une certaine façon la subvertir pendant un moment, mais on ne peut pas avoir raison définitivement. Donc il faut arriver à penser Mayotte dans l'archipel, c'est-à-dire qu'il faut penser les rapports avec les Comores, il faut penser à toute cette zone dans l'océan Indien et réfléchir à des conditions de développement et de coopération et de solidarité qui vont régler le problème de l'attractivité de Mayotte, qui est une attractivité parfaitement chimérique, mais quand même pour des personnes qui sont en deçà du seuil de pauvreté, qui restent quand même, qui gardent quand même un certain éclat et qui est extrêmement difficile pour les Mahoraises et les Mahorais eux-mêmes.
On n'a pas raison contre la géographie et je ne sais pas si on a raison contre l'histoire. Les polémiques récurrentes sur la mémoire de l'esclavage, sur la manière, par exemple, dont on pourrait baptiser ou débaptiser certains lieux, les lycées Colbert, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, Christiane Taubira?
Alors, sur Colbert lui-même, Colbert, effectivement, a inspiré le Code noir, qui est un code absolument horrible, même si, à l'époque, on expliquait que c'était, au contraire, pour contenir la férocité des maîtres. Quand même, hein, c'est ça, hein, c'est ça, ce sont des faits de droit et des faits d'histoire, cela. Lorsqu'on veut évacuer évacuer tout le passé. C'est quand même ça qu'on essaie d'évacuer. Mais Colbert n'a pas été que ça. Colbert a été l'homme des manufactures. Colbert a été l'homme d'une théorie de l'État. Donc, moi, je pense pas qu'on puisse jeter aux oubliettes Colbert. Ceci étant, on ne doit pas perdre de vue qu'il a été effectivement l'homme qui a inspiré ce code noir qui a été promulgué par Louis XIV. Donc il faut qu'on le sache, c'est tout. Mais moi, je suis pas favorable à ce que Colbert disparaisse du paysage, ni du paysage physique, c'est-à-dire de l'espace public, ni du paysage en termes de patrimoine historique, culturel et comme personnalité qui a marqué l'histoire de la France. Il y a d'autres personnages qui peuvent effectivement sombrer dans les oubliettes.
À qui pensez-vous, par exemple?
Ils sont nombreux, mais enfin, il y a des personnages qui ont été exclusivement des personnes impliquées dans l'esclavage. Et voilà, et dans la vie n'a été que cela.
Il y a une personne que l'on va commémorer, en tout cas au gros travers des oubliettes, aujourd'hui sur France Culture, c'est Martin Luther King. En conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs, que les jeunes Français qui nous écoutent, Christiane Taubira, conservent de Martin Luther King?
D'abord, sa force morale. Parce que c'est une personne d'une très grande lucidité. Donc, d'abord, il était jeune. Lorsqu'il prend en charge le boycott des bus à Montgomery, il a à peine 25-26 ans. Il était jeune, il était d'une extraordinaire clairvoyance. Il savait que la lutte raciale, avec des guillemets, ne peut se distinguer de la lutte sociale, ni de la lutte anti-impérialiste. Donc c'était d'une personne d'une grande lucidité. Simplement, il avait ce discours sur lequel on a assez peu d'emprise. Aimer ce qui vous opprime, c'est compliqué. Hein, si vous n'avez pas encore passé la barre pour arriver au paradis, c'est quand même très très difficile à accepter. En tout cas, moi, je n'y arrive pas, même à mon âge. Donc être indifférente, laisser parler surtout la raison, être organisé, méthodique, oui. Être amoureux de son oppresseur, non, franchement. Avoir de la tendresse, non plus. Voilà, donc Martin Luther King, c'était pas un abruti qui disait qu'il fallait aimer l'oppresseur. C'était quelqu'un qui, en tant que pasteur, dit que c'est l'amour qui fait avancer l'humanité et qu'il faut, voilà, arriver d'une façon ou d'une autre à ne pas se laisser submerger par la haine et la violence de l'oppresseur. Et c'est pour ça que Fanon est intéressant dans le paysage, puisque les travaux de Fanon ont consisté à démontrer que le colonisé intériorise la violence du colonisateur, qui se détraque mentalement. Et alors que Fanon disait que la seule voie de sortie, c'est la violence, Martin Luther King disait, il fait le même constat, mais la voie de sortie, c'est l'amour.
Merci.
Il doit y avoir un chemin entre les deux.